Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. En cette époque où l'on parle de mémoire, de devoir de mémoire, je souhaiterais aborder aujourd'hui un sujet peu connu, lié précisément à la mémoire religieuse des peuples, des villes et des villages. Un sujet, pour ainsi dire, quasiment abandonné de l'historiographie, le culte des reliques. Tout d'abord, il s'agit de s'entendre sur la définition de la relique. Les dictionnaires en donnent une définition généralement identique, je cite celle du grand Robert, « Dans la religion catholique, corps entier ou fragment de corps d'un saint ou d'un bienheureux dont le culte est autorisé par l'Église. » Pourtant, certains dictionnaires s'éloignent quelque peu de notre grand Robert. Le Richelet, par exemple, dictionnaire du XVIIIe siècle, exclut la notion de culte quand d'autres dictionnaires, eux, ne mentionnent même pas les objets que le saint ou le bienheureux, donc, a possédé ou bien touché au cours de son existence terrestre. Vous avez dit terrestre, que dire aussi des reliques surnaturelles. On le voit, donner une définition de la relique n'est pas un exercice facile, et tout aussi complexe est la définition du reliquaire, dans la mesure où rien ne les caractérise, où le dénominateur commun entre tous n'existe pas formellement, où aucune codification ne mentionne l'art et la manière de préserver un corps saint. Ensuite, les reliques, leur histoire, sont indéniablement liées à celle de l'Église, à celle, je vais me répéter, de l'histoire des églises, bâtiments au centre des villes et des villages autour duquel vivait la communauté. Les reliques sont aussi liées à la sociologie, bien sûr, au comportement religieux, à l'histoire des représentations et bien évidemment à l'histoire de l'art. On le voit, se pencher sur les reliques et les reliquaires, c'est aborder de multiples domaines scientifiques souvent complexe, constituant un véritable défi pour le chercheur. Yves Gagne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez, Yves Gagne, relevé ce défi. Vous êtes conservateur du patrimoine de la ville de Paris. Vous avez très longtemps travaillé à la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris. Docteur en histoire de l'art et archéologie, vous venez de publier aux éditions du Cerf un ouvrage inattendu et non moins passionnant, reliques et reliquaires à Paris entre les 19e et 20e siècles. Alors, je le dis d'emblée, l'intitulé de votre ouvrage peut paraître restrictif, Paris, le 19e et le 20e siècle. Pourtant, ce livre s'avère passionnant et riche à la croisée de multiples disciplines. L'exercice a été difficile, Yves Gagneux ?
L'exercice n'était pas évident. Vouloir traiter un sujet pareil n'est déjà pas en soi une chose forcément simple. Et d'autre part, quand on parle de reliques en général pour le 19e ou le 20e siècle, dans l'esprit des gens, cela évoque plutôt des pratiques plus ou moins superstitieuses en province. Il m'a semblé qu'il serait précisément intéressant d'essayer d'appréhender la réalité de ce phénomène à Paris, précisément la plus grande ville de la France, une ville qui a un clergé extrêmement important, qui a une très grande diversité dans ce clergé, puisque vous avez des curés extraordinairement instruits à Saint-Séverin ou à Saint-Sulpice, le séminaire Saint-Sulpice est très très important, et puis vous avez des curés dans les périphéries de Paris qui ont affaire à une population extrêmement humble socialement. Donc entre le faubourg Saint-Germain, la chaussée d'Antin et les ouvriers du Marais, si vous voulez, il y a une diversité très importante. Et d'autre part, il est apparu que les églises parisiennes étaient très riches en mobilier cultuel et notamment en reliquaires. Alors cette richesse, là encore, est surprenante puisque on sait que la Révolution française s'est montrée à Paris complètement impitoyable vis-à-vis des édifices. Il n'est rien, mais alors rien resté dans aucune église, pas le moindre élément d'orfèvrerie. Tout ce que l'on trouve aujourd'hui comme objet cultuel, tout cela est la création, l'apport du 19e ou du 20e siècle.
Donc vraiment, Paris constitue une spécificité en France ?
C'est extrêmement difficile à dire puisque comme le culte des reliques n'a jamais été étudié nulle part, ben, le cas de Paris maintenant l'est, mais quant à la situation exacte en province, bien malin serait celui qui pourrait le dire.
Alors nous le disions avant cette émission, il y a par rapport aux reliques une spécificité dans l'histoire parisienne ou bien même dans l'histoire contemporaine aujourd'hui, dans l'histoire du temps présent, l'attitude des fidèles par rapport aux reliques, elle est bien différente si on se situe à Rome ou bien à Paris.
Oui, il y a des différences locales très importantes. Le culte des reliques n'est effectivement pas du tout vécu de la même manière en Espagne, en Italie, en France ou dans les parties catholiques d'Allemagne. Donc il y a des différences très importantes. Et vraisemblablement, en France, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des différences assez fondamentales entre la façon dont les cultes de saints sont pratiqués en Bretagne, par exemple, ou dans le Midi, ou à Paris. Une grande ville n'a évidemment pas du tout la même sociologie que la campagne, surtout au XIXe siècle, lorsque la population est essentiellement rurale.
Alors, pourquoi, malgré tout, le XIXe et le XXe siècle ? Est-ce que, finalement, c'est le sentiment de préservation après la Révolution française qui vous a amené à vous cantonner à cette époque, puisque, finalement, l'histoire et l'étude de l'histoire datent plus précisément de la Révolution française ?
Quand on parle de reliques à des personnes ordinaires, en général, cela évoque des objets du Moyen-Âge. Donc, on sait que le culte des reliques a connu en France au Moyen-Âge une vogue extraordinaire. Cette vogue a été d'ailleurs très largement popularisée par le XIXe siècle, par la vision que le XIXe siècle nous a laissée du Moyen-Âge, mais c'est un phénomène au Moyen-Âge extrêmement important. Donc la Révolution passe par là, détruit tout, et en regardant les sacristies, en examinant ce que l'on trouve parfois dans les greniers des églises, on trouve des quantités d'objets incroyables. J'ai compté plus de 800 reliquaires à Paris, et à mon avis, j'ai dû à peu près traiter sérieusement, même pas les deux tiers des édifices. Donc si vous voulez, et ça comprend plus de 3400 reliques. C'est énorme. Alors c'est d'autant plus énorme que la Révolution a fait disparaître le mobilier, elle a aussi fait disparaître les reliques. Elle a fait disparaître les reliques parce que les reliques, pour les révolutionnaires, c'était à la fois une manifestation de superstition, et puis c'était aussi, d'une certaine manière, l'histoire de l'Église, et l'Église qui était un ennemi institutionnel, donc qui était à abattre. Donc ces raisons se sont conjuguées pour que l'on détruise les reliques, et il y a eu des destructions extrêmement spectaculaires, comme par exemple les restes de Sainte-Geneviève, qui ont été traités comme ceux d'un grand criminel. Elle a été brûlée en place de grève, et ses cendres jetées à la Seine. Donc si vous voulez, après la Révolution, on peut considérer qu'il n'y a pratiquement plus une relique à Paris, plus un reliquaire, et aujourd'hui, on dénombre des quantités de reliques et de reliquaires incroyables. Donc, quel est ce culte dont personne, finalement, n'a la moindre idée ? C'était un peu une sorte de défi à relever, et c'est cela qui m'a paru intéressant d'étudier.
Alors, justement, sur le culte, je le disais en introduction, la définition des dictionnaires parfois omet cette notion de culte. Quel est le rôle de la relique ? Est-elle nécessaire au culte ?
Non, la relique n'est pas nécessaire au culte, et le reliquaire encore moins. Le reliquaire n'est que le contenant, la relique elle-même n'est que le moyen de s'adresser au saint, le saint étant lui-même un intercesseur pour s'adresser à Dieu. Donc en réalité, le catholique doit s'adresser direct à Dieu, mais il peut passer par un intercesseur. Et pour passer à cet intercesseur, il peut utiliser les reliques qui lui représentent véritablement le saint. Quand il s'agit d'ossements, l'ossement est le saint en personne, d'une certaine manière. Et l'Église a serré d'ailleurs les reliques en quatre catégories. Vous avez les reliques insignes, qui sont les éléments les plus importants, la tête, la main, le bras, etc., ou les quelques instruments du martyr. Vous avez les reliques corporelles, qui sont le reste du corps, une côte par exemple, qui ont un statut un peu moindre. Vous avez enfin les reliques réelles, qui sont les objets ayant appartenu au saint. Et la dernière catégorie, on s'éloigne de plus en plus du saint tel qu'il était de son vivant, ce sont les reliques représentatives, c'est-à-dire les objets ayant été au contact des reliques du saint lui-même. Donc vous avez ces quatre catégories, mais ces quatre catégories permettent également de s'adresser au saint pour lui demander d'intercéder auprès de Dieu. Ça, c'est la conception ecclésiale du culte de la relique.
Alors, justement, cette conception ecclésiale est importante parce qu'on sent à vous lire que l'Église tient à éviter les excès et, au fond, à éviter le culte indu à une relique qui ne serait pas réelle ou qui ne serait que présumée.
Oui, alors ça, c'est une préoccupation qui marque profondément la politique de l'Église, pratiquement depuis la Réforme. Un des éléments de la réforme, de la genèse du protestantisme, avait été précisément la question des indulgences et aussi la question de reliques dont une sorte de commerce se faisait et qui paraissait tout à fait scandaleux à certaines personnes. Alors ça a été dénoncé par des humanistes catholiques, par des humanistes chrétiens, donc des gens comme Rabelais, comme Erasme, ne sont pas privés d'égratigner ce comportement. Et évidemment, côté protestant, vous avez le fameux traité des reliques de Calvin qui est une charge d'une méchanceté invraisemblable. Calvin ne se prive pas de ridiculiser des pratiques qui effectivement prêtait vraiment le flanc à la critique. Alors ensuite, le Concile de Trente va régulariser les choses, donc va vraiment déterminer, mettre des bornes au culte des reliques, définir les choses de façon extrêmement précise, et la législation depuis n'a pas tellement changé. Mais au XIXe siècle et XXe siècle, l'Église est très 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 attentive à l'authenticité des reliques et à la cohérence du culte. Il ne s'agit absolument pas de diverger et d'aller au-delà des bornes prescrites par l'Église. Et d'ailleurs, à Paris, le culte des reliques est uniquement un culte encadré strictement par l'Église. Il n'y a pas de culte populaire à Paris. Aucune trace n'a pu en être trouvée.
Alors, je ne sais pas si on doit parler d'érection d'une relique ou d'une découverte d'une relique. La relique suppose une procédure judiciaire qui reste réglementée, vous le dites, par le Concile de Trente.
Alors, c'est très réglementé. On ne peut de toute façon vouer de culte qu'à la relique d'un saint ou d'un bienheureux reconnu comme tel par l'Église. Et pour devenir saint, eh bien, il y a un procès de canonisation, donc un procès avec un avocat, un procureur. Le procureur, c'est ce qu'on appelle l'avocat du diable. Ce sont des procès qui peuvent durer extrêmement longtemps. Certains procès s'étendent sur plus d'un siècle. Ça peut être parfois beaucoup plus court. Et on va interroger tous les témoins possibles, c'est-à-dire éventuellement des contemporains s'il en existe encore. Sinon, on ira faire un travail d'archives de façon, dans un premier temps, à vérifier que la personne a bien poussé les vertus jusqu'à l'héroïsme. Donc c'est ce que l'on appelle l'héroïcité des vertus. Et cette condition, si elle est acquise, ne suffit pas. Il faut en plus qu'il y ait des miracles. Alors, sachant que en même temps, si un culte est voué sur la tombe d'une personne morte en odeur de sainteté, ce culte n'étant pas reconnu, jouera contre la canonisation.
C'est très important ce que vous dites, mais même la définition de la sainteté, hein, je vous cite, définir la sainteté n'est guère plus facile que de s'accorder sur ce qu'est une relique, et la signification du mot saint a beaucoup évolué. On sait qu'au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge est très très important, on a tendance à l'oublier, hein, mais c'est 10 siècles, eh bien il y a eu des moments où la volonté populaire en fait primait en quelque sorte sur la volonté de l'autorité.
Oui, alors là, sans être médiéviste, on sait quand même assez bien la chose. Effectivement, pratiquement jusqu'au 12e siècle, ce sont les populations qui décident, qui font saint un évêque, un corps que l'on vient de trouver, etc. Et qui, dans le meilleur des cas, vont demander à l'évêque de participer à la translation des reliques, c'est-à-dire qu'on va la translation quand on va déplacer le corps, de façon à donner un peu plus de gloire à la cérémonie. Mais après le Concile de Trente, là, il n'en va plus du tout de même. Après le Concile de Trente, la canonisation est rigoureusement encadrée et la question ne se pose plus. En revanche, ce qui se pose, et votre question est tout à fait juste, c'est que fait-on de ces saints du Moyen-Âge dont l'authenticité est parfois extrêmement aléatoire. Alors, de ce point de vue-là, l'Église a toujours affiché une extrême prudence et elle a considéré qu'on ne pouvait déclarer que quelqu'un n'était pas saint qu'à condition de le démontrer. Alors évidemment, quand il s'agit de Saint-Georges, quand il s'agit de Sainte-Catherine d'Alexandrie, la non-existence du saint n'est pas facile à démontrer. Donc, a priori, le saint reste présumé saint tant qu'on n'a pas démontré le contraire. En même temps,
des saints sont radiés malgré tout.
Des saints sont radiés du calendrier, mais on peut toujours vouer un culte.
Je suis bien placé pour le savoir.
Oui, Christophe, en effet, a fait partie de ces différentes purges. Donc, un certain nombre de saints ont été radiés du calendrier. On peut toutefois leur rendre hommage. Dans le cas, par exemple, de Sainte Philomène, qui a été peut-être la sainte la plus populaire du XIXe siècle, elle a été radiée du calendrier en 1961, mais on peut lui faire une messe. La messe du commun des martyrs s'applique à Sainte Philomène.
Il y a eu un travail, je vais utiliser le mot entre guillemets d'épuration en quelque sorte, même au moment du Concile de Trente, même au XVIIe siècle par exemple avec un Urbain VIII.
Épuration, c'est difficile à dire. Il y a eu surtout des contrôles qui ont été mis en place pour éviter des débordements et pour éviter de donner prise à la critique. Et il y a aussi, il ne faut pas non plus l'oublier, l'Église est une institution extrêmement importante et en son sein, elle comprend des éléments très très divers. Donc, au sein de l'Église, il y a des personnes qui ont soutenu très fortement des cultes un peu douteux, et d'autres, au contraire, de savants ecclésiastiques qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour mettre des bornes à ces mêmes cultes. Donc, si vous voulez, l'institution est large et...
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Yves Gagneux, historien et auteur du livre « Reliques et reliquaires à Paris au XIXe et au XXe siècle », un ouvrage paru aux éditions du Cerf. Nous nous retrouvons, Yves Gagneux, dans un instant.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la mémoire religieuse et tout spécialement aux reliques et aux reliquaires à Paris au 19e et au 20e siècle. Alors nous avons tenté dans une première partie de définir en quelque sorte le contexte, hein, ce que fait l'Église de la relique, participe-t-elle au culte ? Mais je voudrais en venir, Yves Gagneux, à ce qu'elle représente. Que représente le corps de la relique ? Est-ce que l'on a affaire à des simples restes corporels ou bien a-t-on affaire à un corps spirituel ?
On a affaire aux deux, en réalité. La question est extrêmement complexe. Le saint est vivant, il est vivant auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle on peut intercéder auprès du saint. Donc le saint est vivant et ses restes corporels, d'une certaine manière, vont attester la vie de ce saint. De toute façon, si le saint n'était pas vivant, on n'aurait pas le droit de conserver son corps. L'Église interdit formellement la possession d'un cadavre. Le cadavre doit être rendu à la terre, par définition. Dans le cas du saint, ça n'est pas un cadavre que l'on a, ce sont les restes d'une personne qui est vivante auprès de Dieu. Alors, il y a eu des interprétations assez variées, justement, de cette conservation du corps. La conservation du corps, dans certains cas, a été considérée comme un miracle, comme la preuve que Dieu maintenait en vie, d'une certaine manière, le corps. Et si les chairs sont conservées, c'est que forcément, la personne est bien reçue par Dieu, donc il faut la canoniser. Ça a été presque un motif de canonisation dans certains cas. Dans d'autres conceptions, peut-être plus complexes, notamment la conception paulinienne, on sait que ce que saint Paul appelle la chair, c'est l'équivalent du péché. Donc le fait que finalement que le corps perde sa chair, c'est qu'il se débarrasse du péché, et le reste du corps mort d'un saint, c'est son corps sans le péché, c'est par conséquent le corps vivant, et participe au corps vivant du Christ. C'est un petit peu complexe, et ça n'a objectivement pas été perçu d'une manière aussi compliquée par tous les fidèles qui, en général, voient les choses de manière assez différente. Mais les fidèles ont toujours la certitude que les reliques qu'ils honorent sont le saint en sa personne, le saint vivant. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un culte, si vous voulez, parce qu'on s'adresse à une personne, on s'adresse vraiment à quelqu'un. Il est là.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut conserver un cadavre, hein, l'Église l'interdit. L'Église s'approprie hein, les reliques, hein, vous insistez bien sur ce point. Est-ce que, malgré tout, les particuliers peuvent posséder des reliques ?
Alors, les particuliers n'ont pas le droit de posséder des reliques insignes. Et c'est là où on en revient à cette dissociation des reliques. Mais un particulier peut très bien posséder un médaillon avec une relique secondaire, une relique représentative, et c'est tout à fait légal. On lui demande simplement de la traiter dignement.
Alors, dans votre chapitre 2, vous parler de l'impact d'un événement majeur, c'est la Révolution française, et vous y consacrez une bonne partie de votre ouvrage. Et après avoir affirmé que l'on sait au fond peu de choses hein, avant la Révolution sur les reliques, eh bien la Révolution, paradoxalement, va avoir un effet sur les reliques et va les remettre à l'honneur, mais dans le sens où elles vont être l'objet de persécution.
Oui, elles vont être l'objet de persécutions puisque les révolutionnaires vont s'attacher à les détruire. Je donnais tout à l'heure l'exemple de Sainte-Geneviève, mais le corps de Saint-Claude a subi, dans le Jura, a subi le même traitement et on pourrait citer d'autres exemples. La Révolution a détruit vraiment tous ces reliquaires, toutes ces reliques et a créé d'une certaine manière aussi des héros chrétiens qui ont réussi à sauver les reliques de la profanation révolutionnaire. Donc on a, comme cela, on voit apparaître dans la littérature chrétienne, dans la littérature catholique, ce thème du héros chrétien qui, au risque de sa vie, va danser la carmagnole près d'un brasier, rattraper le corps d'un saint et en criant mort au saint, le mettre soigneusement dans sa tunique pour pouvoir l'apporter au clergé une fois la révolution terminée. Il risque sa tête quand même, ça n'est pas rien. Et ce thème se développe tout au long du 19e siècle dans la littérature, on le retrouve pratiquement jusqu'à 1890. Enfin, c'est vraiment très très durable. Et il y a eu effectivement des cas d'héroïsme chrétien, ils sont attestés, ça c'est une certitude. Le principal rôle de la Révolution, surtout, a été son travail de décantation. On ne sait pas exactement quelle était la situation, mais on sait que certaines églises étaient pleines de reliques. On a quelques inventaires quand même que l'on connaît. Et après la Révolution, eh bien, ces mêmes églises, quand elles rouvrent, vont retrouver des reliques de saints, mais jamais les mêmes. Donc certains saints disparaissent complètement, et d'autres font leur apparition. Et en réalité, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup, on touche véritablement du doigt une spiritualité naissante. Il n'y a aucun souvenir de l'ancien temps, il n'y a rien qui puisse parasiter la conception qu'on ait, et quand on voue un culte à un saint au début du XIXe siècle, ce n'est pas par tradition, C'est parce qu'on a vraiment envie de le faire. Donc l'Église construit sur des bases entièrement neuves et par conséquent nous donne une image extrêmement précise de la dévotion qu'elle entend proposer aux fidèles.
Nous parlons de la Révolution, mais il y a une chose que j'ai apprise dans votre livre qui est importante, c'est que vous dites que c'est sous l'Empire que l'on détruisit le plus d'églises dans Paris. Donc ces destructions d'églises rejoignent également ces destructions de reliques.
Oui, la Révolution n'est pas un point dans le temps. Les destructions se sont échelonnées entre la remise volontaire de l'orfèvrerie inutile dans les églises et puis la déchristianisation violente qui commence avec les massacres de septembre 1992. Il y a eu différentes phases au cours duquel les reliquaires ont été récupérés, puis confisqués, puis vraiment saisis, et les reliques ont été rendues au clergé, puis brûlées de façon systématique. Donc il y a eu vraiment des phases. Et quant aux édifices même, ils ont été pour la plupart vendus sous la Révolution, mais la destruction même date de l'Empire. Vous savez, la plus grande église de la chrétienté médiévale, c'est quand même l'abbaye de Cluny, elle a été détruite pratiquement jusque dans les années 1820. Donc ça s'est vraiment échelonné. Jumièges, c'est pareil. Ce sont des édifices qui ont servi de carrière de pierre, et la destruction a été très lente. En fait, l'Empire a laissé faire parce qu'on ne pouvait pas tout racheter. Personne n'y avait intérêt.
Mais alors, vous décrivez toute la litanie des maux contre l'Église à cette époque, que ce soit sous la Révolution et sous l'Empire. Les églises sont utilisées comme dépôts et à une toute autre utilisation.
Alors, celles qui ont une autre utilisation sont d'une certaine manière celles qui ont eu le plus de chances de survivre. Parce que on les a effectivement utilisés comme entrepôts à fourrage, comme magasins, comme bourses du commerce, etc. Donc dans ces cas-là, au fond, on gardait la carcasse. Pour les autres, celles qui ont été vendues, elles ont fait l'objet d'une exploitation véritablement systématique. On a récupéré tout ce qui avait de la valeur dedans, à une époque où les matériaux ont beaucoup de valeur. Les vitraux ont été cassés parce que le plomb valait très cher. Toujours pour récupérer le plomb, on a complètement défoncé le sol de façon à recueillir les cercueils, qui avaient un intérieur en plomb. On a récupéré les dalles, les pierres tombales, on a récupéré les autels parce qu'il y avait du marbre et qu'on a pu l'utiliser d'autres manières, on a récupéré le bois parce que le bois c'était intéressant, et quand on voit actuellement des pierres tombales médiévales en bon état, il leur manque toujours les incrustations, parce que les incrustations étaient métalliques et que le métal a été récupéré. Il y a vraiment une récupération tout à fait systématique, et aujourd'hui quand on dit la Révolution c'est terrible, ils ont coupé les têtes des rois sur les cathédrales pour faire un exemple, c'est un aspect très anecdotique dans le vandalisme révolutionnaire. Le véritable vandalisme, c'est celui des profiteurs, celui qui ont acheté les biens pour faire de l'argent et qui ont vraiment fait de l'argent d'une manière extraordinairement efficace, je dois dire.
Alors, il va y avoir, après la Révolution, une sorte de retour des reliques qui va prendre un certain temps, puisque vous écrivez qu'il faut atteindre la fin du 19e siècle pour avoir des paroisses qui ont récupéré leurs reliques.
Ce retour s'échelonne dans le temps. Alors certaines paroisses vont aller très très vite. Saint-Eustache, par exemple, dès 1796, c'est vraiment dès la fin de la terreur religieuse, Saint-Eustache se préoccupe de récupérer des reliques de ses patrons et ils vont à Saint-Denis pour en trouver. Ailleurs, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'autre part, ça n'est pas forcément la priorité non plus pour le clergé. Représentez-vous, si vous voulez, le curé récupérant une église. Alors, dans le meilleur des cas, l'église entière, parfois c'est juste une toute petite partie, mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de chaire, il n'y a pas de calice, il n'y a pas de ciboire, il n'y a pas d'ornement, il n'y a rien pour dire la messe. L'église est en fait une carcasse vide. Dans le meilleur des cas, il y a encore les fenêtres, ce n'est pas toujours le cas. Les portes sont en mauvais état. Donc, si vous voulez, il y a un énorme travail de remise en état à faire. Donc, on commence par déblayer les décombres de l'ancien maître-autel, parce que tout il a été entièrement démonté, et on met un petit maître-autel en bois, et progressivement, on essaie d'embellir le culte. Les reliques n'ont pas toujours été la priorité, et dans certains cas, elles l'ont été, ce qui montre précisément l'intérêt qu'on leur portait. Et ensuite, il s'agit de récupérer des reliques. Et alors, comme il n'en reste plus du tout à Paris, eh bien, que fait-on? On va les chercher là où il en reste, c'est-à-dire parfois en banlieue, parfois en province. Et là, on voit d'un seul coup se développer tout un réseau de relations qui permet aux curés, parce qu'ils connaissent le vicaire général de tel endroit, parce qu'ils connaissent l'évêque de tel endroit, de récupérer, de demander des reliques. Et souvent, on les leur donne. Alors, on ne leur donnera pas toute la relique. On leur donnera une petite partie. Donc, on va fractionner la relique.
Le découpage.
Exactement. On procède au découpage. C'est une pratique assez ancienne et qui a connu, après la Révolution, un développement tout à fait nouveau. et d'une importance considérable.
C'est-à-dire qu'avant la Révolution, on avait affaire à des reliques plus importantes en taille, des crânes, des fémurs entiers, etc. Après la Révolution, on récupère des petits morceaux que l'on distribue un peu partout.
Exactement. Pour reprendre l'exemple de Sainte-Geneviève, l'abbaye de Sainte-Geneviève possédait son corps. Et maintenant, Saint-Étienne-du-Mont, qui a d'une certaine manière pris la succession spirituelle de Sainte-Geneviève, Saint-Étienne-du-Mont possède une phalange. Donc si vous voulez, effectivement, on n'a plus qu'une toute petite partie là où il y avait le tout. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce phénomène, c'est que ce sont les saints qui avaient été le plus découpés avant la Révolution, qui avaient d'une certaine manière le plus de chances de survivre à une disparition. Parce que ceux dont le corps était vraiment limité à un endroit, une fois le corps détruit, il n'y a plus rien. Ceux dont on avait envoyé une côte par-ci, une phalange par-là, un bout de tibia ailleurs, eh bien, on avait plus de chances de récupérer ensuite un petit morceau. Donc, il y a, après la Révolution, les églises récupèrent des reliques, mais pratiquement aucune ne récupère de corps. Ce sont des fragments. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, le fragment est le saint aussi bien que le corps.
Je reçois Yves Gagneux, auteur de Reliques et reliquaires à Paris, 19e, 20e siècle. Yves Gagneux, vous êtes conservateur du patrimoine de la ville de Paris. Nous nous retrouvons dans un instant. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy, je reçois un jour dans l'histoire, Yves Gagneux, auteur du livre Reliques et reliquaires à Paris, au 19e et au 20e siècle. Nous évoquons la mémoire religieuse à travers ces objets, autant les reliques que les reliquaires. Alors, nous avons évoqué, Yves Gagneux, la Révolution française, mais il y a un deuxième temps. Il y a même plusieurs temps de nouvelles persécutions tout au long du 19e siècle pour les reliques. C'est par exemple la Révolution de 1830-1848 et surtout la Commune. Vous donnez des niveaux dans la destruction des reliques, des destructions brutales ou bien des destructions ordinaires ou bien même, parfois, l'Église même a un rôle dans la disparition des reliques.
Je dirais même que l'Église a le rôle principal dans la disparition des reliques. Les destructions de 1830, le saccage de l'église Saint-Germain à l'Auxerrois en 1831, sont des choses bien attestées. En 70 aussi, il y a eu effectivement des pillages, donc des destructions parfois considérables, mais souvent ponctuelles. Ça n'a plus rien à voir avec l'ampleur des destructions révolutionnaires. La destruction ordinaire, c'est tout simplement le fait que l'on va laisser disparaître des reliques. Alors, à cela, il y a plusieurs raisons. Et il faut vraiment, cette fois-ci, se projeter dans ce qu'est le culte des saints. Le culte des saints, pour l'Église, c'est le moyen de promouvoir différentes choses. Ça peut être promouvoir un saint qui est un intercesseur jugé particulièrement efficace dans tel ou tel domaine. Saint Roch, par exemple, est le protecteur auquel on s'adresse naturellement dans le cas de maladies contagieuses. Évidemment, lors des grandes épidémies de choléra en France, Saint Roch a fait l'objet d'un culte extrêmement intense. Mais vous avez des saints plus spécialisés dont finalement l'usage va se perdre. Par exemple, Saint Fiacre. Saint Fiacre, c'est le patron des jardiniers. Donc les petits villages qui entouraient Paris et qui en 1860 ont été englobés par la capitale, au début du 19e siècle, ces petits villages ont une vie essentiellement rurale. Donc vous avez beaucoup de jardiniers qui ont des potagers, qui ont des vergers et qui vivent en envoyant leurs fruits et légumes à Paris pour faire vivre la grande ville. Et puis, avec l'extension de l'urbanisme, ces villages vont être mangés, les champs vont disparaître et Saint-Fiacre aussi. On n'a plus de raison d'honorer Saint-Fiacre. Les reliques sont reléguées dans un coin, sont perdues et personne ne s'en soucie. Et puis, vous avez aussi des reliques que les prêtres considèrent comme douteuses parce que les sceaux n'existent plus, parce qu'on considère que le saint est un saint dont l'existence n'est pas véritablement avérée. Alors, dans certains cas, quand il s'agit de grands édifices, Saint-Sulpice, par exemple, on dira, bon, donnons cette relique à une église pauvre. C'est assez bon pour les pauvres, le discours est un peu cru, mais ça revient exactement à ça. Et enfin, il y a surtout, de la part de l'Église, il y a surtout les années 1960 et 1970, là on est dans le XXe siècle, et on assiste en France à un phénomène très étonnant, dont on ne retrouve pas l'équivalent ni en Italie ni en Espagne, qui est celui d'un véritable vandalisme liturgique. Or, il faut remonter à la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour trouver l'équivalent. Dans une période qui entoure Vatican II, mais ce n'est pas Vatican II qui a ordonné que l'on détruise les objets du XIXe siècle, en France, les curés, les églises paroissiales, et en général avec la bénédiction des administrations chargées de gérer les édifices qui très souvent sont classés et qui, dans le cas d'églises paroissiales, appartiennent aux communes, donc ces équipes ecclésiastiques vont jeter le mobilier, vont détruire les tableaux du XIXe siècle, et ceci avec une liberté qui aujourd'hui nous paraît assez sidérante. Mmh. Il y a des œuvres de Rude qui ont été jetées à la poubelle, qui ont été cassées. Alors quant aux reliquaires, eh bien les reliquaires ont été tout simplement mis à la rue, ça a fait le bonheur de certains antiquaires. Je le sais parce que certains prêtres m'ont dit que, étant dans un premier poste dans telle église, un jour, en arrivant le matin, ils voient une pile de reliquaires, ils demandent ce qui se passe. Ah ben, on se débarrasse de tout ça, ce sont des vieilleries. Et ils en ont récupéré quelques-uns, mais pas tous. Donc, si vous voulez, il y a eu vraiment une période de grande destruction. Et on doit, d'une certaine manière, s'émerveiller de trouver encore aujourd'hui autant de reliques et de reliquaires, ce qui montre précisément que le XIXe siècle a été une période de très gros enrichissement.
Mais pourquoi cette volonté d'effacer cette mémoire ?
Oh, c'est assez difficile à dire. Il y a sans doute eu plusieurs facteurs qui sont venus se combiner. D'abord, un désintérêt assez marqué pour l'histoire. Ça, il semble que le clergé parisien n'ait pas eu pour l'histoire le même intérêt que celui qu'avait le clergé du XIXe siècle. Ensuite, il y a eu un goût pour la nudité. Ça, c'est une esthétique, ce qui explique que les architectes en chef des monuments historiques, que les municipalités aient laissé faire. Parce que quand une église paroissiale se débarrasse de ses reliquaires, en réalité, les reliquaires appartiennent à la commune. Donc, elle va donner ou vendre des objets qui ne lui appartiennent pas. C'est un délit, au sens strict. Mais nul ne s'en soucie. Donc, il y avait un goût pour la nudité qui s'est manifesté par le goût pour les matériaux bruts. Donc, c'était l'époque où chez soi, on aime bien voir le bois apparent, la pierre apparente. C'est l'époque où, dans les églises, pour le coup, les architectes en chef vont décaper des pierres qui n'avaient jamais été mises à nu. Et on va vider, éliminer tout ce mobilier 19e siècle assimilé à des vieilleries, à des choses sans intérêt. Donc on qualifie tout ça de mobilier sulpicien, selon le bon vieux principe de qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et les statues en plâtre d'un goût assez douteux vont rejoindre des peintures de peintres extrêmement importants qu'on a cessé d'apprécier à cette époque-là.
La relique, en fait, n'est pas intemporelle, elle est profondément liée à l'époque. Vous évoquiez tout à l'heure le Concile de Trente, hein, qui, contre le protestantisme, a souhaité redéfinir le cadre juridique entourant la relique. Eh bien, là, on voit qu'à une époque bien précise, il y a eu une mode spécifique, cette nudité, qui a exclu la relique de la liturgie.
Alors, la nudité, c'est une chose, ça explique le vandalisme liturgique en général. Ça n'explique pas seulement le désintérêt pour les reliques. Dans le cas des reliques, vous parliez de mode et c'est très juste. Les reliques ont toujours été utilisées pour des objectifs bien précis. Donc, soit qu'il s'agisse de promouvoir une vertu, de promouvoir un exemple, Saint Vincent de Paul, c'est le patron du clergé. Donc, mettre en honneur Saint Vincent de Paul, c'est aussi mettre en honneur le clergé. Ça a un sens. Sainte Philomène au XIXe siècle, c'est le meilleur représentant de la pureté sexuelle des jeunes filles. Donc là encore, elle est présentée comme un modèle. Jeune fille, conservez votre virginité. Vous avez Sainte Philomène qui vous montre la voie, qui vous montre l'exemple. Donc c'est un modèle moral cette fois-ci. Vous avez des modèles beaucoup plus spirituels, comme par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et chaque saint, si vous voulez, va être utilisé dans un sens précis. Et vous avez aussi des utilisations extrêmement politiques. Quand on va promouvoir les saints du terroir, c'est parce qu'il s'agit dans un premier temps pour des évêques que l'on appelle gallicans de se défendre contre la volonté de Rome de vouloir mettre la mainmise sur l'Église en disant non, il y a une Église nationale qui a son autonomie, donc on va promouvoir certains saints et pas d'autres. Inversement, les partisans de Rome vont mettre en avant les martyrs des catacombes romaines, précisément ces martyrs qui sont morts à Rome autour du pape pour la défense du christianisme naissant. Donc, si vous voulez, à chaque groupe, ses modèles, à chaque groupe, ses héros, et c'est un phénomène qui dépasse très largement l'Église. Les républicains ont aussi leurs saints laïcs, ils sont au Panthéon. Et vous aurez Victor Hugo qui est là parce que c'est un écrivain républicain. Ce n'est pas parce qu'il a écrit des choses extraordinaires, sinon on y mettrait Molière, on y mettrait La Fontaine, on y mettrait Balzac. Balzac, La Fontaine, Molière n'ont pas leur place dans le panthéon républicain. Donc, si vous voulez, il y a une utilisation réelle des reliques dans tous les sens. Et à la fin du XIXe siècle, eh bien, l'Église n'a plus besoin. Les modèles n'intéressent plus personne. on est quand même autour de 68, si vous voulez, la notion de modèle a quand même pris du plomb dans l'aile. L'histoire est une notion que l'Église française, en tout cas, ne semble plus énormément apprécier. Et quant à l'intercession auprès du Christ, il y a peut-être eu un recentrage de l'Église vers le Christ même, ce qui fait que les gens préfèrent s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, littérale. Donc, au fond, les reliques n'ont plus véritablement de raison d'être. Alors, la chance des reliques par rapport aux statuaires religieuses ou aux grandes peintures ou aux vitraux du XIXe siècle, c'est qu'elle prend peu de place. Donc, en général, les reliquaires ont été relégués dans les greniers ou dans les placards de sacristie au lieu d'être mis à la poubelle.
Alors, cette notion de nouveau culte est très importante. Je voudrais, Yves Gagnon, en venir aux reliquaires. Hein. Alors, nous l'avons évidemment indirectement abordé avec les destructions des églises, etc. Comment s'organise ? Est-ce qu'il y a une codification du reliquaire ?
Ça a été peut-être une de mes plus grandes surprises. Avec la quantité de règles que l'Église a décrétées pour s'assurer de l'authenticité des reliques et du bien fondé des cultes, je m'attendais à ce qu'il y ait également, pour la mise en honneur de ces reliques, des prescriptions extrêmement précises. Il n'en est rien. En dehors de l'interdiction de quelques places, où on ne doit pas mettre des reliques au-dessus d'un tabernacle ou
quand
devant,
le Saint-Sacrement est exposé,
c'est ça.
Ou les pierres d'autel.
Mais il faut en mettre dans les pierres d'autel, c'est une obligation. Mais en dehors de ces quelques indications, il n'y a rien. Donc le clergé est entièrement libre de présenter la relique comme il l'entend. Et alors, cette facilité est exploitée d'une manière qui, moi je trouve, est absolument passionnante au XIXe siècle. On va vraiment créer ex nihilo des formules complètement neuves, complètement originales, qui, quand on les étudie, nous permettent de comprendre le fonctionnement de nos ancêtres et de comprendre ce que certains ont pu considérer comme des vieilleries était en fait d'un dynamisme absolument extraordinaire et pleinement inscrit dans le temps. C'était totalement contemporain.
C'est-à-dire qu'il y a une véritable liberté, finalement, dans les choix.
La liberté est complète, c'est précisément la raison pour laquelle on n'arrive pas à définir un reliquaire.
C'est impossible
de définir un reliquaire. Il n'y a aucun point commun, vous n'en avez pas, entre les reliques qui sont présentées dans un clocher pour à la fois protéger de la foudre et d'une certaine manière générale répandre la bénédiction du saint sur l'ensemble de la paroisse, entre les reliquaires que vous pouvez toucher, les reliques que l'on peut voir ou qu'on ne peut pas voir, on touche ou on ne touche pas. Enfin, non, la variété est complète. Mais cette variété, là encore, n'est jamais innocente. C'est-à-dire que la façon dont le reliquaire est fait, le culte est orienté et le saint est présenté de telle ou telle manière. De certaine manière, on peut dire que c'est vraiment le reliquaire qui va faire le saint. Et ça, c'est tout de même une chose qui n'est pas négligeable parce qu'on s'intéresse souvent à la présence de reliques. On ne sait pas comment s'intéresser à la façon dont elles sont présentées. Or, c'est l'essentiel. Deux reliques du même saint présentées de manière différente, vous n'avez plus le même personnage.
Vous présentez évidemment le symbolisme des représentations. Et là, nous sommes dans l'histoire de l'art. Et il y a un symbole qui revient malgré tout sur plusieurs reliquaires que vous décrivez assez longuement, c'est la fleur de lys. Et elle a un sens autant religieux que politique.
C'est l'opinion qu'on peut avoir a priori. On peut se dire, oui, la fleur de lys, c'est le symbole de la pureté pour l'Église. C'est le rameau de Saint-Joseph qui se couvre de fleurs de lys. Enfin, c'est comme ça que c'est souvent représenté, en tout cas au Moyen-Âge. C'est aussi un symbole royaliste, puisque le drapeau à fleurs de lys, ça reste le drapeau de la royauté française. Mais quand on s'intéresse aux reliquaires qui ont des fleurs de lys, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, ce symbole n'est peut-être pas utilisé comme tel et qu'on n'en sait rien. Donc, ça devient finalement, l'interprétation devient assez compliquée puisque l'on a des fleurs de lys sur des saints qui n'ont strictement aucun rapport avec la royauté. On l'a parfois sur des saints qui ont un rapport avec la royauté, mais est-ce que c'est le fait du hasard ou pas? On ne sait pas le dire. Donc, si vous voulez, le strict symbolisme de quelques éléments reconnaissables ne suffit pas du tout à comprendre le fonctionnement d'un reliquaire, à comprendre ce que c'est.
Vous disiez tout à l'heure, à chaque saint son reliquaire, on imagine que les symboles qui peuvent être représentés d'une manière artistique sont liés à l'histoire, par exemple la palme des martyrs.
Oui, dans le cas des symboles, en effet, la palme est associée en général aux martyrs. On trouve quelques palmes sur des reliquaires où il n'y a pas que des martyrs, mais bon, c'est assez rarement le cas. Là, ce sont des cas assez simples. Puis vous avez des choses beaucoup plus complexes. Vous avez par exemple tout simplement le choix du style. Est-ce qu'on fait un reliquaire néo-gothique ou est-ce qu'on fait plutôt un reliquaire dans le style romain ? Alors, ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais on se replace pour le coup en plein dans ce conflit que j'évoquais tout à l'heure entre une église souhaitant garder son autonomie nationale, vraiment une église française, et une église romaine. Et on le sait, au XIXe siècle...
Même le gallicanisme donc se retrouve dans l'histoire artistique des reliquaires.
Oui, et la chose est totalement évidente à Paris au travers de deux grandes réalisations qui sont le tombeau de Sainte-Geneviève à Saint-Étienne-du-Mont et le monument de Saint-Vincent de Paul dans l'église des Lazaristes. Donc deux monuments qui, a priori, n'ont rien à voir. À Saint-Étienne-du-Mont, autour de Sainte-Geneviève, on a un ensemble qui fait vraiment très Moyen-Âge tardif, 14e, 15e siècle, des colonnettes graciles, des ogives un peu partout. C'est vraiment du néo-gothique dans toute sa splendeur. Alors que dans l'église des Lazaristes, on a un ensemble beaucoup plus composite. On pourrait se dire, eh bien, on a du Moyen-Âge pour Sainte-Geneviève, et puis un style un peu hybride pour Saint-Vincent de Paul. Quand on regarde vraiment dans le détail, on se rend compte que les références au Moyen-Âge sont infiniment plus nombreuses sur le tombeau de Saint-Vincent de Paul. Dans le choix des saints représentés, dans le fait que l'on puisse passer sous la relique, dans sa disposition, dans les éléments mobiliers, dans le style, dans le rapport même au culte, dans l'organisation du circuit, on a des allusions à ce qui se pratiquait au Moyen-Âge, mais qui sont tellement recombinées qu'elles sont en fait un produit typiquement au XIXe siècle. Donc on a une sorte de monument d'érudition médiévale qui ne peut être finalement qu'un objet du XIXe siècle. Mais en même temps, comme les références stylistiques sont très variées, puisqu'on renvoie aussi bien à des éléments allemands du XVe siècle qu'à l'Italie du XIVe siècle, il y a même quelques éléments paléo-chrétiens, qu'on a en fait une sorte de syncrétisme du Moyen-Âge européen. Et le résultat, c'est que ça n'évoque en rien le Moyen-Âge pour nos contemporains. Alors qu'à Saint-Étienne-du-Mont, on a une sorte d'habillage médiéval avec ce style. Pour le reste, c'est du XIXe siècle 100%. Alors, pourquoi cette évolution? C'est le même architecte, curieusement, qui a fait ces deux monuments. Et cet architecte est un jésuite. Donc un jésuite au XIXe siècle est farouchement intéressé par la prédominance de Rome. Donc il va défendre, coûte que coûte, la primauté papale. Alors quand il fait ce monument à Sainte-Geneviève, eh bien, il fait un monument en se disant, voilà, nous présentons Sainte-Geneviève comme une sainte internationale. Et le fait est que on n'évoque pratiquement pas la petite histoire de Sainte-Geneviève dans le monument de Saint-Étienne-du-Mont. On n'y a pas du tout la légende dorée de Jacques de Voragine, elle n'y figure pas. On a une sainte qui est une sainte mystique, on évoque Saint-Siméon le Stylite avec qui elle avait des rapports, on montre des vertus, donc on insiste sur sa dimension spirituelle et on passe complètement sous silence la petite histoire, celle qui avait rendu finalement Sainte-Geneviève très populaire. Donc Sainte-Geneviève redevient une sainte catholique et plus la patronne des Français. Mais le problème, c'est que ça n'a pas du tout été perçu comme ça par les contemporains, qui se sont empressés de transformer le style gothique en représentation de l'Église nationale. Parce que c'est le génie national, c'est l'Église de France, elle s'exprime comme ça, sa grande époque, l'Église de France, a été le Moyen-Âge, donc si c'est le Moyen-Âge, c'est l'Église nationale. Donc l'architecte a voulu faire finalement une démonstration complètement différente, en montrant que le Moyen-Âge n'était pas que français, qu'il était européen, et qu'il était européen parce qu'il s'articule autour de Rome. C'est le monument de Saint-Vincent de Paul. Ça n'a été compris par personne, ça n'a eu aucun succès. Le style gothique est devenu définitivement, vers 1850, le symbole même de l'autonomie nationale.
Yves Gagneux, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée aux reliques et aux reliquaires à Paris au XIXe et au XXe siècle. Je reçois Yves Gagneux, conservateur du patrimoine de la ville de Paris et auteur donc du livre paru aux éditions du Cerf, Reliques et reliquaires à Paris. Alors, nous avons évoqué tout le mouvement historique autour des reliques, autour du reliquaire, également la conception politique autour du reliquaire religieuse. Mais ce qui est détonnant, c'est de voir tous les verbes qui entourent ces reliquaires. Il s'agit de protéger la relique, il s'agit de ménager le saint, je vous reprends, d'abriter la relique, d'habiller le saint. On prend vraiment soin de ses corps ou bien de ses objets qui ont appartenu au saint.
Il y a en fait une sorte de dualisme dans la relique. C'est-à-dire que c'est à la fois un bien de l'Église, un objet qui est un trésor de l'Église et qu'il faut donc conserver comme tel, et en même temps, elle est le saint dans sa personne. Et en fait, le traitement de cette propriété d'un côté et de ce saint de l'autre est parfois antinomique. Quand il s'agit, par exemple, de protéger strictement la relique. Si on veut véritablement protéger un morceau de chair, le meilleur moyen au XIXe siècle consiste à le plonger dans un bocal de formol. Mais comme vous l'imaginez bien, ce traitement est complètement incompatible avec le respect que l'on doit au saint lui-même. Donc on va, si vous voulez, sans arrêt, c'est extrêmement intéressant de voir où se trouve la frontière entre ces deux modalités. Les reliques de Saint Vincent de Paul, au XVIIIe siècle, avaient fait l'objet d'un traitement assez particulier, puisque le corps étant quand même en assez mauvais état, on avait décidé de faire bouillir pratiquement tous les saints, récupérer toute la poudre, les restes de tendons, de chair, etc. Et donc les os ont été bien propres, ont été repris et remis dans le reliquaire, et quant à ce qu'il restait au fond, eh bien, c'était les restes du saint, véritablement. Donc on en a fait des petites médailles, en ajoutant de l'huile et différentes choses. Et il s'agit d'un traitement qui, au XIXe siècle, serait devenu complètement impensable. Donc, si vous voulez, parce que, d'un côté, le traitement du saint n'est plus compatible avec la façon dont on a traité une personne importante. Les corps des rois étaient bouillis au Moyen-Âge, on le sait, mais au XIXe siècle, on sait cette pratique. Donc il n'est plus question de faire ce même genre de traitement. Et effectivement, le corps du saint doit être à la fois enveloppé, protégé, mais quand on va mettre un tissu autour du saint, s'il s'agit de le protéger, on va aussi honorer la personne, donc on mettra des tissus en or, brodés d'or, avec des décorations, des croix, etc. Donc toutes sortes d'attentions très, très attentives, qui ne sont pas forcément destinées à être montrées d'ailleurs. Il s'agit vraiment d'honorer le saint tel quel, et de cette manière, on va aussi créer au saint parfois des vies, après ce qu'on appelle le dies natalis dans l'Église, le jour de la naissance, c'est-à-dire le jour du décès officiel, c'est le jour de la naissance du saint, on va leur créer des vies parfois très différentes de celles qu'ils ont connues de leur vivant. Un saint qui aura pu être ascète de son vivant va se retrouver dans la soie et dans l'or. Les saints qui sont dans des églises où ils sont complètement reclus, complètement dans des monastères, complètement reclus, enfermés, d'un seul coup vont se retrouver au carrefour d'une population, il y aura des pèlerinages et ce sont des centaines de milliers de personnes qui viendront à leur contact tous les jours. Donc si vous voulez, on va vraiment créer de cette manière une vie différente au sein.
Alors, il y a un point qui est une manière de présenter les choses qui est aussi intéressante et qui au fond n'a rien à voir avec la relique, c'est la représentation de cire. Madame Tussaud's Museum avant la lettre, on présente aux fidèles le saint dont parfois on a le masque. Enfin, non pas le masque, la représentation physique par une trace de cire.
C'est un usage qui, en France, vient essentiellement d'Italie. L'Italie a une longue tradition de sculpture de la cire. Il y a eu des sculpteurs extrêmement, extrêmement célèbres, vraiment de vrais artistes. Et les reliques en Italie sont souvent traitées de cette manière, c'est-à-dire que l'on va faire vraiment un visage en cire, des mains en cire, des pieds en cire, on habille l'ensemble et les reliques sont mises à l'intérieur.
Et on habille avec les vêtements du saint ?
Alors, on habille
systématiquement.
Pas systématiquement. On peut mettre les vêtements du saint quand on les a. C'est le cas de certains saints un peu récents. Et quand on ne les a pas, on va créer des vêtements de toutes pièces. Donc, dans le cas de saints récents qui ont été traités de cette manière, vous avez pratiquement tous les grands saints du XIXe siècle, Saint Jean-Marie Vianney, Pierre-Julien Aymar, Catherine Labouré, Louise de Marillac, sont représentés.
Vous représentez Saint Jean Bosco en photo dans votre ouvrage ?
Oui, parce que ce traitement s'est appliqué à des corps, il s'est aussi appliqué à des fragments et de façon très différente. Dans le cas de Pierre-Julien Aymar, dont on peut voir le corps dans le 8e arrondissement, son corps entier est à Paris, on a une effigie de cire représentant Pierre-Julien Aymar dans une châsse. Les reliques sont en dessous, elles ne sont pas à l'intérieur. Alors que dans le cas des reliques de Saint-Vincent de Paul, elles ont été disposées à leur place sous une effigie, là encore, de cire. C'est la même chose pour Catherine Labouré et Louise de Marillac. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer, de voir qu'il y a là véritablement une évolution du rapport au saint. Au Moyen-Âge, les fidèles ne voient pratiquement jamais les reliques. Il y a assez peu de verres et ça n'est pas nécessaire. On sait qu'elles sont là. Donc on va au contact du saint, le tombeau est ici, il est fermé, il est clos, beaucoup de châsses sont complètement fermées, n'ont pas de verre, ça n'a pas d'importance. Au XIXe siècle, on montre systématiquement les reliques. Il n'y a pratiquement aucun exemple de reliquaire à Paris, sur plus de 800 reliquaires, j'en ai trouvé deux exemples, dont une châsse qui venait de l'étranger, c'est très peu. Il n'y a pratiquement aucun exemple de châsses ne montrant pas les reliques. Donc il y a vraiment une volonté systématique de voir, il faut voir. En revanche, on ne touche plus au XIXe siècle, ou pratiquement plus. À partir du milieu du XIXe siècle, apparemment ça ne suffit plus, et on souhaite voir la représentation, donc on souhaite voir le corps. Alors pourquoi voir le corps? Dans certains cas, c'est véritablement le corps du saint. Si vous allez dans les dombes voir le curé d'Ars, c'est vraiment son corps, donc il y a eu des légers traitements de la peau, et on a mis un masque pour protéger son visage, mais ça reste le corps lui-même. Et là encore, on se rapproche de cette idée que la conservation est d'une certaine manière quand même un gage de sainteté.
C'est toujours pour inciter au culte, on montre la relique ? Parce que c'est de l'ostentation, vous montrez l'importance de l'image.
La relique n'est pas de l'image, la relique c'est l'être, c'est vraiment la personne. Donc simplement on a besoin de voir son interlocuteur. Et l'interlocuteur c'est le fragment d'os. Et en même temps ce fragment, il suffit de le voir tel quel. Le 19e siècle connaît des systèmes grossissants. Il y a des loupes, on n'utilise pratiquement jamais. Donc le fragment suffit parfaitement. Mais il faut vraiment voir, et dans certains cas, les fidèles le demandent. La châsse est un petit peu trop fermée, on voit mal la relique. Faites-nous sauter ces arcades sur le devant de reliquaire de façon à ce qu'on voit mieux notre saint.
Alors, il y a une relique dont on parle beaucoup, c'est le linceul de Turin. Le linceul de Turin a été exposé à Paris.
Alors là, vous parlez de reliques christiques. Mon travail, c'est vraiment strictement limité aux reliques de saints, et c'est déjà bien suffisant. En plus, j'ai été très perturbé par Jean-Paul II, qui a canonisé à tour de bras, m'obligeant pratiquement à reprendre depuis le début mon enquête. Hein, certainement, j'ai ensuite fini par donner une date au milieu de son règne.
Mais les reliques christiques sont vraiment très importantes, surtout aujourd'hui, que ce soit les reliques de la croix, mais on pense également à la couronne d'épines, puisque Saint-Louis l'a récupérée.
Oui, Saint-Louis a récupéré effectivement.
Et il y a la Sainte Chapelle qui est un des plus grands reliquaires de l'histoire du monde.
Exactement, c'est la Sainte Chapelle et le reliquaire fait par Saint Louis pour les reliques de la couronne d'épines et d'autres reliques qu'il avait rapportées, qu'il avait acquises auprès de Byzance. Mais oui, les reliques du Christ existent, elles sont assez nombreuses. Elles sont d'ailleurs parfois, on en retrouve au milieu de reliques de saints. Et il n'est pas rare d'avoir des reliques avec un très très léger fragment évoquant le Christ. Alors ça, c'est toujours très infime, ça peut être une toute petite trace du bois. Ça peut être aussi des reliques qui ont été rapportées par des pèlerins et qui sont des fragments des lieux où le Christ s'est trouvé. Donc on aura la grotte de la Nativité par exemple, va fournir des reliques. Et donc on aura la relique du Christ et autour on aura par exemple les apôtres. Alors en nombre variable parce que quand on veut donner un nom aux apôtres, on arrive vraiment à 12.
C'est sur ce clin d'œil, Yves Gagneux, que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation d'un jour dans l'histoire, pour présenter votre ouvrage, que je conseille vivement aux auditeurs qui s'intéressent à l'histoire religieuse. Il s'agit d'un ouvrage unique, d'une étude unique. Les études sur les reliques sont inexistantes, en tous les cas en France. Reliques et reliquaires à Paris au XIXe et au XXe siècle, paru aux éditions du Cerf d'Yves Gagneux. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire.